RCF.
Jean Étévenot, puisque nous évoquons avec vous l'histoire de Lyon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un art d'être lyonnais ?
Oui, il y a un art d'être lyonnais qui repose sur une convivialité que je qualifierais de peu expansive. Hein, là, on retombe dans une caractéristique précédemment évoquée qui veut que le Lyonnais ne montre pas trop ses émotions, ce qu'il pense, qu'il ne fasse pas étalage de ce qu'il a. Je pense même qu'on pourrait peut-être prendre comme exemple Guignol. Dans la mesure où, à l'origine, c'est quelque chose de très populaire qui ensuite a été assimilé par l'ensemble de la société lyonnaise.
Guignol, dont le père est
Laurent Mourguet. Donc c'est un personnage qui apparaît au lendemain de la Révolution. Guignol, c'est le canu moqueur, frondeur, mais gentil. Hein, toujours prêt à rendre service et il veut pas créer de problèmes, bien entendu. Et Guignol, c'est un personnage qui va nourrir tout le 19e siècle, même une partie du 20e siècle, et qui, je le dis quand même au passage, n'a rien à voir avec le grand Guignol qu'on peut trouver par ailleurs. Car Guignol est en fait un personnage très fin, avec une caractéristique, c'est son parler. Qui est le parler lyonnais traditionnel, qui a été très étudié au XIXe siècle et qui, là aussi, a contribué à transcender les différences sociales qui pouvaient exister entre les uns et les autres.
C'est une sorte de patois ?
C'est une sorte de patois, c'est la variante locale du franco-provençal qui est parlé dans la région, avec un accent bien particulier, conservé par quelques personnes. Mais enfin, faut quand même savoir qu'il y a toujours aujourd'hui une société des Amis de Guignol qui doit compter 600 à 700 personnes.
Bonjour les gones, bonjour les fenottes, bonjour Gérard Truchet et bienvenue dans les Lyonnaiseries.
Extrait des chroniques Les Lyonnaiseries, présenté sur RCF Lyon par Adrien Barraud.
Alors bonjour, et alors vraiment, je suis très heureux que vous veniez d'employer là deux mots typiquement lyonnais. Le mot « gonne » qui représente non pas seulement l'enfant, parce qu'on est gonne toute sa vie, de la naissance à la mort. Et puis la phonote, ben, c'est sa compagne, c'est la femme. Voilà, c'est un mot très délicat, phonone, c'est plus joli que femme.
Et je rappelle que vous êtes donc président de l'association Les Amis de Lyon et de Guignol, et vous avez lutté justement pour utiliser ces mots-là, qu'on utilise tous les jours à Lyon en tout cas.
Et ben voilà, depuis 40 ans que j'emploie ces mots, bien petit à petit, avec Les Amis de Lyon et de Guignol, eh bien ils sont revenus dans le langage populaire, et on ne peut que s'en réjouir.
L'eau qui dort et se réveille d'une longue nuit de sommeil, c'est comme si j'étais parti la veille. Je suis entre la colline qui prie et la colline qui crie, je ferme les yeux, mange un morceau de soleil. Je serai dilettantement de rire en sentant la mort venir. Du moins j'espère, je serai dilettante à temps partiel, même à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère revoir la mer et la famille.
De grands artistes lyonnais ?
Mais les grands artistes lyonnais, on en a eu depuis l'époque classique. Lorsqu'on a beaucoup parlé de l'incendie qui s'était déclaré à Notre-Dame, on n'a pas toujours indiqué que le superbe maître-autel, heureusement préservé, propose toujours, heureusement, des statues qui ont été réalisées par des Lyonnais. Il y a eu aussi beaucoup de peintres lyonnais. Et ces peintres lyonnais se sont développés avec une particularité qui est que au XVIIIe siècle, on avait besoin de motifs et en particulier de motifs floraux pour les textiles. Car si les textiles lyonnais se vendaient aux quatre coins de la planète déjà à ce moment-là, c'était à cause de la richesse des tissus, mais aussi de la finesse des motifs. Et ces motifs, c'était des motifs floraux. Il y avait une école de dessin à Lyon, c'était une école royale. Hein, elle a été fondée par Louis XV. Et à partir de là, on va avoir 18e, 19e, 20e, même 21e siècle, un certain nombre d'artistes qui vont être formés par cette nécessité d'avoir des gens capables d'orner tous ces textiles qui étaient non seulement des tissus portés par les personnes, mais qui étaient aussi des textiles d'ameublement. Aujourd'hui, les grands palais nationaux sont toujours décorés avec les commandes royales, les commandes napoléoniennes, les commandes de la Troisième République, et on les refait, etc. Il y a donc là une tradition très très forte. À Lyon, on a su manier, je dirais, ce que faisaient les ingénieurs, les inventeurs, et puis également les artistes.
Je vous propose, Jean Etévenot, d'écouter une voix. Vous allez certainement la reconnaître. Cet enregistrement date de 1960. Écoutez.
Je crois qu'on mange très bien à Lyon, et surtout maintenant, car nous avons des produits de qualité qu'on ne pouvait peut-être pas avoir avant. Nous avons des frigos, nous avons un tas de marchandises qui arrivent dans une qualité exceptionnelle.
Est-ce que vous avez toujours autant de clients, ou plus ?
Je crois qu'on en aurait plus en ce moment, car Lyon est vraiment une plaque tournante, et plus ça va, plus il y a l'étranger à Lyon, et ceci nous amène beaucoup de clients.
Chez vous, à partir de quel prix peut-on bien manger ?
Vous savez, la bonne cuisine est très variable comme prix. On peut manger à tous les prix, mais enfin, la bonne cuisine est chère.
Est-ce que ce prix a augmenté par rapport aux années précédentes ?
Je ne crois pas.
Quel est, à votre avis, le plat le plus demandé, votre spécialité chez vous ?
Vous savez, on essaye chez nous de faire toute la cuisine, c'est-à-dire on essaye de s'étendre un petit peu, de faire de la bonne cuisine. Mais le plat le plus demandé, les volailles de Bresse, que je tiens dans les mains, sont encore très demandées car nous avons un poulet extraordinaire qui est encore nourri tout au grain. Et je crois que c'est la seule région autour de Lyon, dans la Bresse, où on nourrit le poulet au grain de maïs.
Paul Bocuse, bien sûr.
Oui, 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 bien sûr que c'est la voix de Paul Bocuse. Et c'est notre Paul national qui...
Et international.
Hein, qui savait très bien mettre en valeur la variété, et en particulier la variété régionale des produits. Et quand on parle de terre de confluence pour Lyon, ben il faudrait dire aussi terre de confluence gastronomique, hein, parce que si on mange bien à Lyon, c'est parce que on a la chance d'avoir toutes sortes de productions de la terre, les arbres fruitiers, les vignes. On est quand même à la conjonction de la Bourgogne et puis des côtes du Rhône. On a aussi des races de bovins tout à fait extraordinaires. On a une variété de fromages sensationnels. On a les volailles évoquées par Monsieur Paul. On a aussi tous les produits des rivières et des étangs, même si maintenant on est obligé d'aller chercher un petit peu plus loin. Tout cela a, je fais un jeu de mots facile, a nourri la cuisine lyonnaise, a nourri les Lyonnais et nourrit tous ceux qui sont venus, hein, parce que vous me complétiez il y a quelques instants en disant que Paul Bocuse était international. Oui, oui, c'est international, parce que il y a déjà bien longtemps, lorsque le TGV a été instauré à Lyon au début des années 80, il y en avait un du dimanche matin qu'on appelait le TGV Bocuse, hein, parce qu'il amenait les Parisiens qui venaient déjeuner chez Bocuse.
Et puis Lyon se trouvait sur la fameuse Nationale 6.
Oui, tout à fait. Ben, la 6 au nord, la 7 au sud. Bon, évidemment, maintenant, aujourd'hui, pour la plupart des automobilistes, résumé par un mot horrible qui est le tunnel sous Fourvière.
Qui n'est pas le meilleur bouchon de Lyon.
Non, hélas. Bon, les problèmes de contournement, bon, ça c'est une question que les édiles régionaux essayent de résoudre depuis au moins 20 ans. Je me souviens de Michel Noir qui avait cru que ça pourrait être fait en quelques années. Le pauvre s'était malheureusement trompé. Mais tout ça atteste effectivement des transhumances qui profitent à Lyon, parce que ce qu'il faut, c'est que on s'arrête à Lyon, on découvre Lyon, on visite Lyon, on profite de Lyon et on voit la richesse de cette ville.
On a le sentiment que Lyon est en train de prendre conscience de son potentiel touristique et que c'est assez récent.
Oui, c'est assez récent. Alors, il y a un certain nombre de... Ça s'est heurté à des difficultés de capacité hôtelière qui sont en voie d'être résolues. Le problème, c'est qu'il faut arriver à donner de Lyon une image particulière et ne pas en faire simplement une annexe du Mont Blanc, des pistes de ski ou de la Côte d'Azur. Mais je crois quand même que c'est bien parti et je ne connais pas une personne qui ne se soit arrêtée à Lyon et qui n'ait pas été séduite par la ville et ses environs.
On a commencé en évoquant le Rhône et puis la Saône aussi. On va peut-être finir avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Lyon s'approprie d'une manière nouvelle ces deux fleuves qui la traversent, ces deux énormes cours d'eau, et les voit plus comme un atout que comme des obstacles ou des réalités qu'il faut absolument maîtriser?
Vous avez tout à fait raison d'évoquer ce problème. Là aussi, ça fait une bonne vingtaine d'années que la reconquête des fleuves a été entreprise. C'est quelque chose qui me semble en bonne voie. C'est bien dommage que le canal Rhin-Rhône n'ait pu être mené à bien. Il n'empêche qu'on a, avec ces deux fleuves et leurs affluents, des axes de pénétration, non seulement dans le passé de Lyon qui m'est cher, mais également dans le présent et l'avenir.
Un très grand merci, Jean Etévenot, d'être venu nous parler de Lyon, à qui vous consacrez un ouvrage paru chez Perrin, Les Grandes Heures de Lyon. Ce livre est préfacé par Gérard Collomb. Je rappelle que vous êtes historien, journaliste, et donc que si on veut à peu près tout savoir de l'histoire de Lyon, on peut donc lire cet ouvrage. Merci beaucoup, Jean Etévenot, et merci à Pascal Gauthier, qui était à la technique.
Merci à vous.